18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM en cette nouvelle année 2019. Ce soir, comme d'hab, c'est Time Sport, 18h-19h du lundi au vendredi dans votre radio préférée, oui, Beurre FM. Et Beurre FM vous souhaite la santé, le bonheur, l'amour, mais aussi dans un monde de paix en cette nouvelle année 2019. Au menu de cette première de 2019, la France du football en Coupe d'Europe. Notre premier invité 2019 sera David Fouché de la marque de sport Venom. L'international espagnol Cesc Fabregas, on approche sur le Rocher à Monaco. Et on aura aussi le cas du talentueux Samir Nasri, génération 87. C'est parti, go go Time Sport. Et avec nous, ce soir, pour m'accompagner, durant une heure, Yacine Bouali. Ça me fait plaisir, en cette première 2019, de retrouver Yacine. Et il va nous parler aussi de, on l'espère, nous donner quelques petites infos concernant ce mercato estival. Estival, plutôt hivernal.
Non, déjà l'été, je pense. Et quel menu, le retour de Samir Nasri par la grande porte.
Wammers,
même si, West Ham. Même si ça ne fait pas plaisir à Nassim Bourras.
Oh là là, et Nassim Bourras, il est avec nous. Bonsoir Nassim. Tacle à la gorge, de Nassim. Nassim, comment ça va?
Ça va très bien. Bonne année à vous tous, chers auditeurs. Bonne année à vous autour de la table. Ça commence 2019 assez fort avec Yacine qui tape, mais bon, je vais me préparer et je vais garder les arguments pour la suite parce que je pense que les auditeurs vont être d'accord avec moi ensuite.
Mehdi Hadjad, il est avec nous aussi. Comment ça va, Mehdi?
Bonsoir, ça va bien.
Ouais, une bonne année, Mehdi.
Ouais, bonne année à tous.
Mamadou Lamine Mané qui nous accompagne ce soir aussi. Comment ça va, Mamadou?
Très bien, et toi, Bilal? Et je souhaite mes meilleurs voeux de santé, surtout à
la santé, surtout, c'est ça.
Ici, à mes collègues, mes chers collègues présents et ceux qui sont pas là ce soir. Et
on le rappelle, les auditrices, les auditeurs, pour réagir, le 01 53 48 3000, pour débattre avec les consultants ce soir, et aussi le hashtag du même nom, Tamsport, sur la twittosphère. Voilà. On part directement du côté des divers clubs de cette de ce pays qui est la France, la Ligue 1 Conforama, la Ligue des Talents. On y va.
Time Sport, le ras-le-bol.
La France est-elle ridicule en Coupe d'Europe? PSG, Lyon, Rennes, voilà le trio surprenant des qualifiés français en Coupe d'Europe, alors que Marseille, Bordeaux et Monaco étaient aussi engagés. Assiste-t-on déjà à une campagne décevante des clubs français en Europe? Yacine Bouali, on l'écoute.
Ouais, mais ça va pas changer. Déjà, la Ligue 1, elle s'appelle la Ligue 1 Conforama. Donc, pour qu'elle devienne, je pense, une grande Ligue européenne, pour moi... on peut faire beaucoup de pubs à cette ligue.
Ouais.
Mais quand on voit le niveau européen ou les quatre championnats majeurs européens, ils sont encore loin. La preuve, hein, il y a des entraîneurs qui font le tour de tous les clubs. Hein, il y a des entraîneurs qui vont finir par entraîner tous les clubs de Ligue 1 en France. Il n'y a pas l'émergence de nouvelles compétences, de nouvelles mentalités. Quand on voit, par exemple, en Bundesliga, l'âge des entraîneurs, on donne la chance à beaucoup de jeunes compétences. Ce n'est pas le cas en France. Deloglio s'en va à Dijon. C'est Comboiré qui arrive. Et à la force, Comboiré va faire le tour de tous les clubs de Ligue 1 en France. Alors qu'il y a de très, très bons entraîneurs. La preuve...
Tu remets en cause, toi, là, le niveau et aussi la compétence de certains entraîneurs.
La philosophie, la politique des clubs, le recrutement, le scouting. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour vraiment taper le très haut niveau, être présent en masse en Coupe d'Europe. Je pense qu'il reste encore du chemin à faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs de football qui sont marginalisés dans ce pays et sans la matière première, que ce sont les footballeurs et les entraîneurs, on ne peut pas atteindre un très haut niveau. Oh. Et c'est la faute de ce pays.
On le rappelle, le 01 53 48 3000 pour les auditrices et les auditeurs pour réagir avec vos consultants. On est dans cette première partie de Time Sport où on aborde la France du football. Peut-être ridicule ou peut-être pas. Une petite info mercato de Nassim Bourras qui nous vient, je crois, tout droit de la Bundesliga. C'est ça, Nassim?
Oui,
avant de poursuivre avec le football français.
C'est le défenseur central de Schalke 04, Naldo.
Schalke Nunfir.
Oui. Voilà. Je suis gentil avec les auditeurs, j'ai évité de leur parler avec le terme germanisant. Voilà, c'est Naldo, 36 ans, défenseur central de Schalke, qui va rejoindre très certainement l'AS Monaco. On ne sait pas encore si c'est un prêt, si c'est un transfert définitif. mais il devrait rejoindre l'AS Monaco. Il est même en train de passer.
Thierry renforce l'équipe donc.
Oui, c'est un bon recrutement. Le souci, c'est que bon, il est un peu vieux. Il est un peu vieux. Il est en fin de carrière. On voit sur ses derniers matchs qu'il a un peu de mal avec Schalke, qui est vraiment dans le dur sur ce début de saison. D'ailleurs, on parle carrément d'une rupture de contrat. C'est pour dire comme quoi le joueur n'allait vraiment plus avec avec le club de Gelsenkirchen. Après, est-ce qu'il va pouvoir aider Monaco? J'en doute pas pour les 6 prochains mois. Après, je pense pas du tout que ça peut être une solution d'avenir parce que l'Aldo va
devoir arrêter. On se pose la question de recrutement. Comment se font ce genre de recrutement? Est-ce qu'aujourd'hui Monaco a besoin de se renforcer par un joueur de 36 ans qui n'est même pas titulaire dans son équipe alors qu'ils sont dans le dur?
On en reviendra.
Après, pour revenir sur ce que disait Yacine sur le débat.
Mais on va revenir après, Yacine, ne t'inquiète pas, sur Monaco.
Je suis tout à fait d'accord dans le sens, sur les entraîneurs. Il y a un réel problème là-dessus en France. T'as des entraîneurs qui font 5, 6, 7, 8 clubs dans l'élite alors qu'ils cumulent échec sur échec. C'est incompréhensible. Le cas de Comboiré, il est super flagrant. Ça fait des clubs et des clubs que Comboiré fait en Ligue 1. Est-ce que derrière, il y a eu une réelle réussite? Voilà, c'est toujours des semi-échecs ou des semi-réussites, mais jamais de réelles réussites.
Juste, Nassim, pour te couper, juste par exemple le cas de Vahid Halilhodžić, qui a été pendant longtemps en France boycotté, et la valeur d'un vrai entraîneur, quand il est revenu à Nantes, on voit le travail de quelqu'un qui peut apporter quelque chose à un club. C'est pas le cas de Comboiré, il a fait tout le tour. Et aujourd'hui, c'est qu'il a un bon réseau. Après, c'est qu'il est bien, il est bien entouré, il est bien conseillé.
C'est pas question de réseau. J'ai l'impression qu'en fait, en Ligue 1, il y a une sorte de cartel où les entraîneurs se mettent d'accord pour aller dans tel ou tel club et pour garder les rênes de la Ligue 1 pour la cadenasser. C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même de très bons entraîneurs dans les ligues inférieures, en district, en CFA. Il y a de très bons entraîneurs.
On va s'attarder.
Mais on leur fait jamais confiance. Et de très bons pédagogues, de très bons formateurs. Sachant que tu le disais tout à l'heure, Bilal. C'est la ligue des talents. Il faut des joueurs, faut des entraîneurs capables de faire éclore ces talents. Et malheureusement, on leur fait pas confiance. Ils restent en CFA, ils restent en DH.
Il y a des choix, ils sont un peu décriés. Nassine a raison. Justement, Nassine, on en reviendra. T'inquiète pas, même sur Monaco. Mais comment expliquer cette schizophrénie consistant à se battre toute l'année pour les strapontins, on va les appeler comme ça, des places qualificatives à l'Europe, et aussi le manque de moyens et d'envie sportive quand vient la compétition? Mehdi.
Moi, je pense pas que Naldo soit un mauvais choix. Là, on parle de Monaco, hein, surtout.
Mais on va en reparler de Monaco, parce que là aussi,
les expériences par rapport pour répondre. Est-ce que les clubs français, bien sûr, peuvent poser des problèmes en Europe, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que on a besoin de plus d'entraîneurs qui viennent de l'extérieur aussi, peut-être, pour apporter une touche de vista d'Espagne, par exemple.
Ils disent les entraîneurs étrangers quand ils viennent en France, ils disent ah ouais, c'est bizarre, ils travaillent pas assez, il y a des problèmes, ils posent énormément de problèmes sur la formation française.
Alors justement, Mamadou, est-ce un mal purement franco-français ou ce phénomène se constate-t-il ailleurs en France?
J'ai l'impression que ça se constate pas ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a, pour moi, d'après ce que je vois, il y a qu'en France où on se bat pendant toute l'année pour aller prendre les places européennes. On en fait des tonnes dans les médias, les spécialistes, même les protagonistes, alors à savoir même les clubs qui nous montrent qu'ils ont envie. Et par contre, dès que la compétition arrive, on a l'impression qu'il y a le frein à main. On se parle toujours de ce fameux jeudi noir pour ceux qui jouent en Europa League. On a l'impression qu'on met l'équipe réserve parce qu'on met l'équipe réserve pour pouvoir faire le match de championnat du samedi ou du week-end. Mais c'est n'importe quoi. Et cette culture-là, je la comprends pas. Comment on peut se battre pour participer à l'Europe et finalement derrière quand vient la Coupe d'Europe, il y a plus personne. Alors et ça c'est pas une question de moyens, pas une question de moyens parce qu'il y a
des moyens en France.
Il y a des clubs au Portugal, en Espagne, en Allemagne qui ont beaucoup moins de moyens que par exemple les 3-4 clubs top clubs français.
Que Monaco.
Et pourtant pour le coup, ces clubs-là vont loin. On connaît les clubs portugais, on connaît les clubs espagnols. On va prendre l'exemple. Une Emery a gagné 3 fois l'Europa League. Je suis pas persuadé que en termes d'effectifs ou en termes de moyens, il en est moins que les autres.
T'as même pas besoin d'aller loin. Avec Francfort qui a été premier en faisant
4 les Allemands aussi.
En ayant moins d'argent que.
Bien sûr.
Ça les empêche pas de jouer le jeudi et de jouer le week-end en championnat.
Mehdi, croyez-vous à une victoire en C1 ou en C2?
Voilà, c'est droit plutôt l'Europa League. Oui, ouais. Le club français.
Le faire. Ouais. Mais bon, on parle du PSG, c'est un club vraiment à part en France. On peut pas.
Est-ce que c'est un club français le PSG?
Bien sûr, c'est un club français.
Est-ce que le Real, de Madrid est un club français? Est-ce que Manchester City est un club français? Est-ce que Barcelone est un club français? Est-ce que Tottenham est un club français? Est-ce que le Bayern de Munich est un club français? C'est la question, on peut la poser pour tous les autres clubs.
Ben ouais, il faut poser la question, il faut la poser.
Je l'ai posée. J'ai répondu à ta question par une question.
Aujourd'hui, il me dit que le Paris Saint-Germain peut gagner
potentiellement.
Je pense que le PSG, c'est le seul. Voilà, potentiellement. Mais comme dit, le PSG est un club à part en France. Il faut pas, voilà. C'est vrai qu'un club comme Monaco, un club comme Lyon.
Il gagne tout.
Yacine dit que c'est pas un club français.
Il laisse plus rien. Il n'y a plus de concurrence dans ce championnat. C'est-à-dire, dès le début de la saison, on sait qu'il va gagner et le championnat et la Coupe de la Ligue.
Yacine
dit que le PSG n'est pas un club français. Il y a une part de vrai là-dessus.
Non, j'ai pas dit.
Oui, mais en fait. En fait,
c'est-à-dire par rapport au championnat de France.
Le PSG, en fait, est un club qui n'a pas pris le modèle français pour grandir. Et justement, c'est pour ça qu'il a aussi bien fonctionné.
Heureusement.
Parce que le modèle français, actuellement, il est dans une impasse.
Complètement.
En France, le recrutement, le réel problème des clubs français en Coupe d'Europe, c'est le manque. Pas d'investissement parce qu'il y a de l'argent en France.
C'est le bon scouting.
On va revenir sur Marseille.
Ah là là.
Non, on va revenir sur.
Il nous manque Nabil Zindik là alors. On va revenir sur le scouting.
Il y a pas de prise de risque en France. Oui. Dès qu'on se dit allez on va prendre les valeurs sûres. On va aller au Brésil. On va prendre un Brésilien parce que ça colle un peu bien. On va aller chez le pays champion du monde. On va rester en France ou si c'était en Allemagne on va aller en Allemagne ou en Espagne parce que c'est un peu technicien. Il y a pas de prise de risque. On va pas aller par exemple en Scandinavie pour essayer de trouver peut-être un Norvégien super fort qui va tout exploser. On va pas aller au Danemark pour trouver peut-être le prochain Eriksen. On va pas aller peut-être au Japon pour trouver un Kagawa.
Alors qu'on peut très bien aller aux Pays-Bas aussi, hein, qui est juste à côté.
Un vivier de joueurs en Pays-Bas. Pourquoi vous parlez des Pays-Bas, de la Norvège qui sont. Vous parlez
mais
de juste traverser la Méditerranée, au Maroc, en Algérie, en Tunisie.
Non, mais
l'exemple nous vient du jeune Youssouf Attal de Nice.
Oui,
aujourd'hui, c'est le meilleur joueur dans son poste. En France, voire en Europe. Mais incontestablement à 21 ans.
Yacine, t'as raison, il n'y a pas d'exclusif.
Il n'est pas arrivé en France. Il est passé par la Belgique. Ils sont où, les scouts français?
Je ne sais pas.
Pour aller chercher, parce que le continent africain, ça fait combien d'années que les clubs français ne sont pas partis chercher d'excellents joueurs en Afrique?
Les scouts français sont très bons. Ils sont très bons, ils les voient, ces joueurs.
Le problème, c'est dans la télé. Ils les voient, mais on ne les voit pas dans nos stades. Moi, j'aimerais bien voir. Ah non. Ah, là, tu as ouvert la brèche. Là, je le rejoins.
Je peux donner un nom.
C'est pas normal que. C'est pas normal que Manchester City est rempli de jeunes de banlieue parisienne.
On parle d'un million de joueurs que le PSG veut récupérer. Il y a un jeune joueur algérien, il s'appelle Boudaoui. Retenez bien ce nom. Retenez très bien ce nom. Il vient du même club
Boudaoui,
que Youssef Attal. Il s'appelle Boudaoui. Il vient d'être sélectionné par Jamel Belmadi.
Ouais.
Et franchement, il est plus fort que ce joueur
c'est
de possible. Dortmund. Il est plus fort que ce joueur, c'est pas possible. Mais ouais. C'est certain.
Ok, certain pour Yacine.
Mais ce qu'a dit
Yacine, Yacine, réponse avec Yacine.
Il y a un problème de complexe vis-à-vis du joueur africain.
Bien sûr.
Au-delà du problème.
Il y a un problème de complexe. Merci.
Il y a un problème de complexe vis-à-vis du.
On termine avec toi, Yacine.
Pourquoi? Parce que ce qu'a dit Nassim, c'est la vérité. C'est-à-dire que les scouts sont bons, mais c'est la direction. Qu'ils soient algériens, qu'ils soient arméniens, qu'ils viennent d'où tu veux, qu'ils soient perdus de quoi que tu veux, c'est pas le souci de l'origine du joueur. C'est qu'à un moment donné, les scouts sont là, mais ils font leur travail de scouting, à savoir le reporting, aller voir les joueurs, quel que soit le continent sur lequel ils sont. Par contre, après, la direction n'a pas le courage. De prendre ces joueurs-là, et quelle que soit l'origine du joueur, et je pense pas que c'est une question de continent.
Quand il s'agit de sortir le chéquier pour payer des clubs étrangers, là, ça fait la gueule.
Ouais, bien sûr.
Le Paris Saint-Germain va faire le chèque pour Dortmund de 45 millions d'euros et avec des risques.
Oui, peut-être.
Et ils iront pas faire un chèque pour un joueur venu d'Afrique, directement d'Afrique. Et ça, c'est une grande problématique. Et aussi, on parle de la compétence des clubs français. Citez-moi un entraîneur africain qui entraîne en Ligue 1 ou en Ligue 2 en France.
Alors ça, c'est pas d'aujourd'hui.
Citez-moi un seul entraîneur africain.
Un gros problème, peut-être.
Je vais vous donner une information. La Belgique, le grand Anderlecht, vient de faire confiance à Karim Belhossine, qui est d'origine algérienne, qui vient de prendre les rênes de l'équipe.
Mais ce que
franchement, il est en train de transformer cette.
Je pense pas qu'il y ait.
On te croit, Yacine.
Je pense pas qu'il y ait quelqu'un autour de cette table qui soit contre ce que tu dis, Yacine, parce que c'est un débat qu'on a déjà eu. Ouais. Et cette frilosité à savoir.
Pas mal de fois avec Olivier et même avec Alexandre Seban qui nous écoute.
Sur les bancs de touche, on en a parlé plus d'une fois. Alors. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a un problème français.
Donc il y a un problème. Donc, quand on voit cette équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde.
Oui.
La composante de cette équipe de France.
Mais on la connaît très bien.
Il y a une certaine dominance oui. qui fait qu'elle apporte cette culture de victoire, de gagner, qui a permis à la France de devenir champion du monde.
Et ben on veut la voir sur le terrain. Par contre, on n'a pas envie de la voir sur le banc tout.
Ou à des postes
exécutifs. Ah là là, Mamadou qui rejoint Yacine.
Ça serait très difficile de gagner.
Je suis souvent d'accord avec
ça. Et ça serait très difficile de gagner ces titres européens. Marseille, quand elle a gagné la Champions League ou la Ligue des Champions à l'époque.
Ah bah vous l'avez compris.
Bah Bernard Tapie, il avait la mentalité des gens.
Je reviens sur ce que dit Nassim. Nassim, il a pointé le vrai problème. C'est pas un problème.
Et moi, je n'ai rien contre Nassim.
Non, mais
il a raison. Mais moi, j'en vois beaucoup trop de jeunes Français dans les centres de formation anglais. Même Mehdi pourrait te le dire.
Ceux qui signent le chèque, ceux qui prennent la décision, ne le font pas pour des raisons qui leur sont propres. Et c'est tout. Il y a que qui savent.
Ah, qui connaissent. Le sont propres, mais il faut les dire les raisons.
Bah, ils ont qu'à les dire.
Il faut les dire les raisons. Simplement, c'est comme ça qu'on va crever la.
Non, il y a plein de raisons.
Le 01-53-48-3000 pour réagir avec vos consultants. Là, Simon, on termine avec toi.
Notamment, la première raison, c'est la prise de risque. On va en France, on aura beaucoup de mal à lâcher un chèque d'1 million d'euros pour un jeune Arménien de 18 ans qui a montré de très bonnes choses dans le championnat arménien parce qu'on a une méconnaissance du championnat arménien, en tout cas nos dirigeants.
Une méfiance.
Nos dirigeants ont un énorme problème avec la connaissance du football mondial parce qu'ils pensent qu'un tel football est inférieur à un autre football.
Et c'est là merci, Nassim. Merci, messieurs. Le 01-53-48-3000 pour débattre avec vos spécialistes. Je le rappelle avec moi. Nassim Bourra, Yacine Bouhali, Mamadou Lamine Mané et Mehdi Dejad. Restez avec nous avec le hashtag TimeSport. A de suite.
TimeSport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 18h18 pour la première de 2019 de Time Sport, toujours en live et jusqu'à 19h avec vos consultants. Je le rappelle, autour de cette table pour m'accompagner, Media Djadj, on est avec Mamadou, Lamine Mané, Nassim Bourras, toujours à l'affût des dernières infos mercato hivernal et avec Yacine Bouhali. On retrouve notre invité de ce soir. C'est parti.
Time Sport.
David Fouché, qui est responsable marketing et communication, directeur de Venom France. Bonsoir David.
Bonsoir à tous, meilleurs vœux.
Merveux David, une bonne année, une bonne santé année. Et dans un monde de paix, on l'espère. Pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, avec nous, David, vous êtes d'après les échos, le leader ou l'un des leaders reconnus mondialement dans l'univers des équipements de sport de combat. Pouvez-vous nous retracer en quelques mots la genèse et le développement phare de Venom? Car on peut le constater, Venom est une marque qui grandit et ne cesse de grandir à l'échelle mondiale.
C'est ça. Et Venom, comme peu le savent, on est français, on est basé en région parisienne. Et comme vous l'avez dit, on est leader mondial de la distribution d'articles de sport de combat. Donc ça comprend des protections, ça comprend des gants de boxe bien sûr, mais aussi des survêtements, du textile. Et on couvre toutes les disciplines. Donc vous connaissez peut-être la boxe anglaise, le MMA, mais il y a aussi du jiu-jitsu. Du kickboxing. Il y a pas mal de disciplines et on couvre toutes ces disciplines. On est présent dans le monde entier. Via notre site internet et bien sûr plein de magasins où on revend aussi nos produits et on développe dans toutes ces disciplines et depuis peu on se développe aussi dans des disciplines annexes comme le crossfit.
Oui.
Et on a de la chance, comme je vous l'ai dit, d'être numéro 1 dans le domaine. Donc il y a peu d'entreprises françaises je pense dans le sport qui ont la chance d'être numéro 1 mondial. Je sais pas, souvent on cite Babola dans le tennis, quoi d'autre, Salomon dans le ski. Et ben nous on a de la chance, c'est Venom dans les sports de combat, une entreprise qui a été créée par Franck Dupuis à un peu plus de 10 ans.
Ouais.
Et maintenant on a de la chance d'avoir 4 bureaux un petit peu partout dans le monde et en tout 100 de salariés qui travaillent dans le développement de la marque avec voilà, un bureau en Asie, un à Los Angeles. En Angleterre et à Paris, à Rennes.
Voilà. Une reconnaissance totale, David. Si je peux me permettre, vraiment, c'est une marque que nombre de sportifs, et nous aussi, amoureux des sports de combat, aimons. Une première réaction avec Yacine Bouali. On t'écoute, Yacine, avec David Fouché, notre invité ce soir.
Bonsoir, David.
Bonsoir, Yacine.
Est-ce que vous êtes présent en Afrique du Nord?
Oui, on peut tout le monde peut acheter via notre site internet et on est au présent aussi dans quelques magasins qui revendent nos produits au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Oui, on est tout à fait présent dans tous les pays d'Afrique du Nord.
Puisque vous êtes spécialisé dans l'équipement du sport de combat, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit il faut qu'on se développe et dans l'organisation des combats de boxe ou des tournois de judo, de boxe thaï?
Alors non, pas pour le moment, honnêtement. Nous, on est chacun son métier. Notre métier, c'est de créer des produits. On travaille tous les jours pour essayer de créer les meilleurs produits possibles avec nos usines. Par exemple, on travaille beaucoup nos grandes boxes avec nos ingénieurs, avec des athlètes de boxe anglaise parmi les meilleurs mondiaux. On travaille pour co-développer nos produits, les améliorer, parce qu'un grand box, ça paraît simple comme ça, mais c'est un petit bijou de technologie. Voilà, nous, on travaille beaucoup ça, beaucoup la communication. On travaille beaucoup avec nos athlètes. Donc l'organisation d'événements, on le laisse plutôt pour les autres. Après, peut-être qu'un jour, on verra un grand événement Venom à Bercy, je le souhaite.
Mais on espère.
Non, ce n'est pas le cas.
Ouais, pourquoi pas?
Pas uniquement à Bercy, peut-être à Alger.
Ouais. Même en Afrique, ouais.
Oui.
Et le friand. Il est spécialiste, David Yacine, du sport à l'échelle internationale, lui aussi. Hein, c'est comme ça. Et pourquoi pas, ouais, en Afrique du Nord, nombre de combattants.
L'Afrique, ça nous concerne en premier, parce qu'on sait qu'en Afrique, tous les clubs ou tous les athlètes souffrent du manque de matériel. Le fait d'être équipementier ou distributeur, ça permet aussi de développer cette discipline via peut-être un réseau de soutien. Parce que la matière première, elle existe, hein. Et quand il y a un grand champion qui émerge, c'est votre marque qu'il porte dans les cimes.
C'est très reconnu. Voilà, pas faux.
C'est une façon de participer au développement de plusieurs disciplines dans ce continent.
On est d'accord, Yacine. Mehdi, consultant dans cette émission avec David Fouché, notre invité ce soir de Venom.
Bonsoir, David. Bonne année à toi.
Bonsoir. Merci également.
Au vu de l'actualité, je ne sais pas si tu as fait gaffe à ça, mais Booba aurait lancé à Caris.
À mon avis, Venom n'a pas arrêté. Ça c'est sûr. Ouais.
Est-ce que tu t'es positionné pour être l'équipementier principal de ce fameux combat qui risque d'avoir lieu?
On écoute David. ça peut faire rire, mais c'est vrai.
Même l'organisateur.
Voilà, pourquoi pas.
On n'a pas raté la chose. Je ne vous cacherai pas qu'on a commencé à discuter un petit peu et voir comment Venom pouvait apporter aussi son soutien dans un éventuel combat. Après, voilà, je pense qu'il y a une place un peu à l'entertainment dans un premier temps. Nous, on s'intéressera vraiment au domaine quand il y aura une place sportive. Voilà. Quand ce sera vraiment acté et qu'il y aura un enjeu sportif défini, je pense que notre rôle d'équipementier sportif pourra clairement avoir son utilité et sa légitimité. Mais je pense que pour l'instant, laissons place un petit peu au show et aux protagonistes de discuter. Et après, on verra ce qu'on peut faire.
Justement, David, pour poursuivre cette interview, comment et où se décide votre politique de sponsoring? Et aussi, combien de combattants avez-vous dans votre team Venom? Si vous pouvez nous en dire un peu plus tous les auditrices et les auditeurs.
Tout à fait. Pour faire simple, comme je vous dis, on couvre toutes les disciplines des sports de combat. Donc, ce qui paraît un peu une niche, mais en fait, vous avez des disciplines qui sont très pratiquées aux États-Unis, d'autres qui sont très pratiquées en Asie, d'autres pas du tout ailleurs. Donc, c'est assez spécifique d'un point de vue culturel. Donc, on a des champions dans toutes les disciplines. L'objectif, la politique de sponsoring, elle est simple, c'est d'avoir les meilleurs, parce qu'on est numéro un, donc on veut avoir les meilleurs. Donc, on essaie d'avoir les meilleurs dans chacune des disciplines. Et après, vu qu'on est une entreprise française et qu'on veut soutenir aussi le développement en France, on soutient les meilleurs combattants dans chaque discipline d'un point de vue local. Par exemple, on a le champion du monde de karaté récemment, il s'appelle Steven D'Agosta, il est français. Le champion de France de boxe anglaise, Hervé Lofani, est dans notre équipe aussi. Voilà, on soutient un certain nombre de bons sportifs français et de futurs sportifs en devenir français. Et après, on essaye d'avoir les meilleurs dans chacun des disciplines dans tous les pays. Voilà la politique de sponsoring.
On l'écoute, c'est Mamadou avec vous, David Fouché.
Oui, bonsoir David.
Mamadou.
Bonsoir. Et en fait, justement, c'est, ma question, elle allait un peu plus loin par rapport à cette histoire de développement. Donc, Venom est une marque française, mais comment vous avez réussi à, effectivement, à vous poser et à faire votre maillage à l'international? Vous avez des bureaux qui vous représentent un peu partout, où tout se décide de France, et ou alors c'est un mélange d'un peu tout ce qui peut venir d'Asie, des États-Unis, d'Amérique du Nord, où se décide cette vraie politique, cette politique de développement sportif?
Alors, tout se décide vraiment dans la belle ville de Rungis, dans le 94. Voilà, tout à fait. Là où il y a notre bureau, là où je vous parle en ce moment. Donc, on est une quarantaine de collaborateurs à travailler pour le développement global. Et après, effectivement, on a des petites entités locales qui travaillent au développement spécifique localement. Voilà. Après, le développement international, il s'est fait notamment grâce au MMA. Je pense que vous connaissez l'UFC.
Bien sûr.
Voilà. Qui a eu le vent en poupe, enfin, qui l'a toujours, mais qui s'est extrêmement développé. Et nous, on a eu la chance de prendre le wagon UFC au début. Et en fait, ce qui a permis de montrer la marque et de l'exposer d'un point de vue mondial en l'espace de 1 ou 2 ans. Parce qu'on a été là au début de l'UFC. Maintenant, on n'y est plus, parce que l'UFC, en fait, a un contrat précis avec Reebok, exclusif avec Reebok. Donc, on n'y est plus, mais ça nous a donné une exposition importante. Et après, ça nous a permis de nous développer dans les autres disciplines. Et pas être qu'une marque de MMA, mais une marque complémentaire sur l'ensemble des disciplines des sports de combat. Et maintenant, comme je vous ai dit aussi, sur du fitness, sur du crossfit, etc.
Bien sûr. Voilà. On le rappelle, créé en 2006, Venom est une marque premium d'équipement sportif pour toutes les auditrices et les auditeurs. Dès sa création, elle se positionne quand même avec un succès sur le marché de sport de combat et du cross-training. Marché en vogue. Yacine, avant de terminer cette magnifique
David,
interview.
Avez-vous pensé à peut-être avoir un média ou créer un média qui va permettre, enfin, c'est-à-dire de développer toutes vos activités, c'est-à-dire de les mettre en avant?
Bien sûr, c'est un petit sport, on l'espère, non?
Alors, nous, si vous voulez, notre objectif, c'est de mettre en avant, dans un premier temps, nos athlètes. Donc, on utilise beaucoup la vidéo, beaucoup la photo pour mettre en avant nos athlètes. Et un peu raconter leurs histoires.
Oui, c'est-à-dire une chaîne de télé spéciale MMA ou spéciale sport de combat. C'est pas mal.
Ça peut être ça, tout à fait, ça peut être ça. Mais après, je pense qu'il faut déjà raconter les histoires de nos athlètes, qui ont souvent des histoires assez intéressantes, parce que c'est des sports qui pour le coup, sont assez méconnus, à part 3-4 qui drainent l'ensemble de l'écho médiatique. Les autres sont assez peu connus. Et donc, c'est de mettre en avant ces histoires au travers de nos réseaux sociaux. On a de la chance d'être assez présent. On a 1,5 million de personnes qui nous suivent sur Facebook. On a 300 000 personnes sur Instagram. Ouais. Donc, c'est d'abord nos réseaux. Après, créer une chaîne, créer un podcast, par exemple. Ouais. Écoutez, vous me donnez des idées, pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est Yacine qui est avec nous. On vous mettra en relation avec Yacine.
Avec plaisir.
On a 2 start-upers là, ce soir avec nous. On a Mamadou ou Yacine même, qui pourraient bien vous conseiller, notamment dans le domaine du sport.
En tout cas, je vous invite avec plaisir au Venom Training Camp, qui est... on a nos bureaux en fait au premier étage et en bas on a le Venom Training Camp qui est un complexe sportif qui réunit toutes les disciplines, tous les sports de combat. C'est 1700 mètres carrés de paradis pour les sportifs. Et donc je vous invite avec plaisir pour une petite séance.
Avec plaisir.
Ouais, ça serait sympa. Alors justement, peut-être une réaction. Bon, moi la mienne, c'est on a parlé du MMA. Il avait le vent en poupe. Concernant l'arrivée d'un certain McGregor, mais aujourd'hui, voilà, moyen terme, avez-vous une politique de développement généraliste ou plus ciblée vers les sports montants tels que ce MMA, tous les coups sont permis, ou encore le jiu-jitsu brésilien par exemple, ou aller à l'échelle mondiale boxe anglaise, voire du dans les poids moyens, super lourd, ou comment concrètement votre je vais pas vous demander de nous donner toutes vos données ou encore votre technique d'approche avec les grands champions, mais comment souhaitez-vous justement faire encore accroître cette marge de progression, Kevin Homme, David?
Alors la marge de progression, elle est encore immense. On a fait un bon boulot en 10 ans, mais on a encore une marge de progression qui est énorme, et notamment dans certaines disciplines qui sont la boxe anglaise et le jiu-jitsu brésilien. Je vous l'annonce, le jiu-jitsu brésilien, c'est la discipline qui développe énormément aux États-Unis.
C'est ça, vraiment.
Et vraisemblablement en France, d'ici 2-3 ans, ce sera un petit peu l'équivalent du judo.
On en voit beaucoup plus, oui, c'est vrai.
Exactement. Donc, il y a ce principal levier de développement pour nous. Et le deuxième, c'est la boxe anglaise. Vous l'avez dit, nous, on était très présents dans le MMA.
Ouais.
Et on est très connu dans le MMA. Donc, pour l'instant, je ne dis pas qu'on le met de côté, mais on a fait un bon boulot dessus. Et donc, maintenant, nos efforts se concentrent de plus en plus vers la boxe anglaise, qui est un sport qui se développe toujours, en fait, qui connaît pas, même si les médias s'y intéressent un petit peu moins, on a des grands champions qui émergent, comme le Matchenko, Anthony Joshua, qui draine la boxe vers le haut.
Et aussi de jeunes Français.
Tout le monde s'intéresse à la boxe.
Le fait qu'il y ait beaucoup de télés qui se sont désengagés vis-à-vis de ce sport qui a tant porté ou apporté à la France. Peut-être qu'il y a une place à prendre via votre structure.
Oui, allô.
Un porte-drapeau qui va développer un petit peu ce sport-là en France. Donc là, on a un Tony Yoka qui a redonné un petit souffle sur la boxe française.
Exactement.
Mais les chaînes type Canal+, type CFR Sport recommencent à diffuser tous les mois de la boxe anglaise. Donc, que ce soit en France ou dans le monde, je suis assez serein sur l'intérêt de la boxe anglaise, d'autant plus que c'était une discipline qui était assez d'abord plutôt classe populaire, milieu populaire, et maintenant qui vraiment draine tout le monde. Vous allez dans une salle de boxe, c'est assez magique, vous avez des cols blancs, des cols bleus, des hommes, des femmes, le fitness boxing qui se développe énormément. Donc c'est une discipline qui, pour le coup, maintenant draine toutes les catégories de la population. Donc je pense qu'il y aura un intérêt certain. Et c'est pour ça que nous, on est toujours sur cette vague boxe anglaise. Et il y a encore de belles choses à faire.
Un grand merci, David Fouché, d'avoir été avec nous. On le rappelle, du marketing et communication, directeur, justement, marketing et communication chez Venom. Vraiment une belle réussite, on l'espère, pour cette marque à l'échelle mondiale, notamment en France, et aussi avec une grosse écurie de combattants pour cette marque assez jeune, actif et aussi dynamique. Voilà, on vous recevra, il n'y a pas de problème. Et encore un big up à toute cette équipe qui vous entoure, David.
C'est gentil, c'est sympa. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup.
À vous aussi, David. Merci à vous. Nous, on prend le chemin de Monaco.
Time Sport.
Eh oui, c'est la victoire. Et on parle de Monaco. C'est à l'instant Mercato. L'international espagnol, Cesc Fabregas de Chelsea, est en approche du Rocher, Yacine. Le Rocher, il y en a qu'un en français. Le Rocher de Monaco, sa petite capitale qui est Monte Carlo. L'arrivée du milieu espagnol, Cesc Fabregas, à Monaco devait être bouclée dans la semaine prochaine. Le joueur de Chelsea retrouverait donc son ancien coéquipier Thierry Henry, 19e de Ligue 1. L'ASM peut-elle réaliser le gros coup du mercato de janvier, ce mercato hivernal? On t'écoute.
Est-ce que c'est un gros coup?
Ou est-ce exactement que, la question que j'allais me dire.
Est-ce que c'est un gros coup ou c'est juste une canne à pêche que lance Thierry Henry à son ancien coéquipier?
Magnifique joueur.
Qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui Cesc Fabregas à Monaco? Avec qui?
Son expérience, non?
De l'expérience. De l'expérience, oui, mais.
Encore une fois.
Le football, on se base uniquement de l'expérience, on va recruter que des joueurs qui ont 35, 36 ans. Dans le football, c'est pas ça. Donc, Mbappé, à 17 ans, quand le Monaco l'avait lancé, ils avaient écouté tous les techniciens ou les conseillers autour, aujourd'hui, ils seraient méconnus. Donc, à un moment donné, il faut donner la chance à tous ces jeunes talents de pouvoir exprimer leur...
On n'en a plus peut-être de jeunes talents là-bas.
Il y a des très bons joueurs à Monaco, ou sinon il faut aller les chercher un peu partout en France ou ailleurs, mais il faut donner la chance aux gens de jouer. Si on boucle l'opération Chelsea-Prébasse à combien de temps de millions, je pense qu'on peut faire venir même 4, 5, 6 du même profil et peut-être qu'ils peuvent apporter beaucoup d'argent à Monaco dans le futur.
On rappelle quand même des gros achats. Falcao, 60 millions, James, 45, Moutinho, 25 millions. Il y en avait tant d'autres. On t'écoute, Nassim, concernant ces monégasques.
Oui, Fabregas, il a 31 ans, donc ça va, il n'est pas totalement cramé. Il sort d'une saison avec Chelsea qui était, on va dire, moyenne, puisqu'il a quand même fait 9 passes décisives, un but, il me semble. Donc, c'est tout bonnement correct. Après, c'est pas le top recrutement qu'on pourrait espérer à Monaco. Après, est-ce que ça peut les aider pour les 6 prochains mois? Je pense que c'est possible. Surtout comme je l'ai dit, que Fabregas ne sort pas d'une grosse blessure. Il n'est pas totalement cramé. Il n'a pas 36 ans. Donc ça pourrait le faire pour une période courte. Après, voilà, là, l'AS Monaco, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un recrutement à l'arrache. C'est vraiment un recrutement pour ne pas descendre en Ligue 2. Fabregas, oui, ça peut les aider à ne pas descendre, mais est-ce que ça peut les aider derrière à faire une bonne saison ? Ouais. C'est là tout le problème. Ouais. Parce qu'après, on en revient juste derrière au cas de Naldo, qui a 36 ans. On vient justement d'apprendre qu'il serait pour un contrat d'un an et demi. C'est... Donc, c'est des
ça peut aider quand même, Nassim.
Oui, mais c'est
vraiment dubitatif, non ?
C'est vraiment pour du très très court terme.
Il faut, ouais. En tout cas, on termine avec Nassim.
Monaco, Thierry Henry fait travailler ses amis, tout simplement. Ouais. Ça veut dire tous les agents qu'il connaît, tous les directeurs. Voilà,
pourquoi ça se passe,
il fait travailler son réseau.
Pourquoi ça se passe autrement ailleurs ?
Ouais.
On parle de Monaco.
Monaco, c'est ça.
Si on parle de notre club, on va dire peut-être la même
chose. On reviendra peut-être sur l'instant Mercato, cette fin d'émission. Vous restez avec nous, chers auditeurs et chers auditeurs de Barre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, les consultants autour de cette table. On reste bien cramponnés, messieurs. On revient de suite après ça.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Toujours en live sur Beurre FM. On nous écoute du côté d'Aix-Marseille, 92.6, Bastia, hein, le 92.8. Et on n'oublie pas, même à 3, on nous écoute, Yacine. À 3, c'est le 94.3. Voilà, et dans toute la France, on n'oublie pas le site internet beurrefm.net et même les podcasts de l'émission Time Sport à réécouter dans la rubrique émission sur le magnifique site où vous pouvez vous tenir informé de l'actualité, que ce soit les infos, mais aussi l'actualité culture, sport. On vous donne tout, on balance tout sur le site internet. On a parlé justement de Monaco, on reviendra après sur cette fin d'émission du Mercato. On a parlé aussi de Venom, cette magnifique marque de sport de combat et aussi de cette Ligue 1 Conforama, place au Boxing Day.
Time Sport, le duel.
Le Boxing Day Point. Tottenham 48 points, repasse deuxième de Première Ligue devant les Citizens à 47 points. Les hommes de Pep Guardiola, grâce à sa victoire à Cardiff, en battant très facilement Cardiff, mardi, 3-0. Nassim, Tottenham a repris la deuxième place, Mehdi, du championnat à Manchester City qui affronte Liverpool, les Reds de Jürgen Klopp ce jeudi. On ne parle pas beaucoup des Spurs. La bande, justement, à Mauricio Pochettino, peut-elle être une vraie menace pour le leader qu'est Liverpool. Mehdi,
non.
On l'écoute, non. Mais pour non. Toi, non. Et même pour notre réalisateur Yanis, qui ne le pense pas.
Il est catégorique. Hein.
Ah oui,
direct. Je suis catégorique. Liverpool sera champion.
Ah, tu l'annonces. Je l'annonce en janvier, pas de problème.
C'est merveilleux pour ce public incroyable.
Depuis 91, on n'a plus gagné la première année.
Il mérite tellement.
À Liverpool.
Et là ?
Il a un peu perdu quand même.
Oh, mais vas-y, va faire un tour vers le bas, tu vas voir.
Ah là là là, ça va te...
C'est plus le Liverpool qu'il y a 5-6 ans.
On fait le road.
Tellement
si beau, tu
beau,
connaissais
beau public, tellement ouais. Beau public, mais c'est merveilleux.
Vous pouvez nous faire part aussi de cette ambiance si vous avez été justement du côté de Anfield au 01 53 48 3000. Mamadou, avant de donner la parole,
je crois pas trop à l'alternative Tottenham. Moi j'ai plus l'impression que ça va être un duel vraiment mano à mano entre Liverpool et Manchester City. Après, effectivement, enfin, Pochettino a fait un travail formidable. Il est reconnu parce qu'il est fait dans la régularité. Ça fait 2-3 ans qu'il maintient Tottenham au même niveau, aussi bien en Première Ligue, puisqu'il a redistribué les cartes de ce fameux Big Four et qu'il l'a intégré pour écarter Arsenal depuis. Et on a vu les prestations qu'il a pu faire contre le Real de Madrid l'année dernière. Et vraiment, Tottenham est une très bonne équipe. Mais là, pour le coup, pour cette année, en ce qui concerne la Barclays Première Ligue, je vois vraiment City qui va courir après Liverpool et ça va être un chassé-croisé entre les deux. Alors, ils vont être boostés par Tottenham derrière, mais je les vois mal intégrer les deux premières places. C'est le sentiment que j'ai à l'heure d'aujourd'hui.
Oh, mais...
Je tiens à rappeler aussi que Tottenham a un match d'avance sur Manchester City. Donc, l'avance est d'un point, sachant que Manchester City a un match de retard. Donc,
mais je sens deux équipes beaucoup plus solides en termes de structure collective, City et Liverpool, que Tottenham qui laisse de temps en temps avoir, on voit des
creux. Quand on voit la qualité de jeu de Tottenham,
ils sont capables de faire des gros scores,
on a des questions à se poser, mais juste, il y a un petit bémol au niveau de cet effectif, c'est la profondeur du banc. Peut-être. C'est là où Tottenham, peut-être, ne pourrait pas tenir le coup jusqu'à la fin de saison. Quand on voit combien de compétitions se jouent en Angleterre, on verra entre 45 et 50 matchs par saison. J'ai pas
l'impression.
C'est peut-être là où c'est peut-être leur, voilà, leur talent d'Achille.
Mais n'oublie, enfin, moi je vais pas enterrer United aussi, hein, parce que depuis le retour, enfin depuis l'arrivée de Solskjaer à la tête de l'équipe,
ouais,
on
ressent
une certaine,
on retrouve
moins de pression.
Il part de loin, mais le championnat est encore long en Angleterre. Ouais. Les compétitions, il y a beaucoup, il y a plusieurs compétitions qui se jouent. Manchester City, Tottenham, Liverpool peuvent à un moment donné connaître des moments de flottement. Peut-être United, ça serait toujours bien pour
ce. Je suis d'accord avec toi. Oui, Yacine, vraiment.
Parce que quand on voit la qualité du jeu depuis que Solskjaer a pris l'équipe, on sent quand
les joueurs s'affirment un peu plus.
Exactement.
Tu as raison, Yacine.
Et moi, enfin dire si on, entre Liverpool et City, moi je trouve que Liverpool est au-dessus.
Mehdi, avant de donner la parole à Nassim.
Je voulais rappeler que Tottenham a beaucoup d'absence
sur le calendrier
par rapport à la profondeur de banc.
Sur le groupe,
ils ont quand même beaucoup de, je crois, 7 joueurs au moins absents. Dont,
sur le côté, ouais.
Et des joueurs pas des moindres, hein, des bons joueurs quand même. Donc quand ils reviendront aussi, ça rendra
un peu
de profondeur au banc.
Mais Yacine a dit quelque chose de. Voilà, de toute façon, ils sont tous engagés dans des compétitions. Enfin, ça va être une course infernale.
On aurait bien aimé voir ça du côté de la Ligue des Talents, Mamad. Hein.
C'est celui qui aura le plus.
On va pas quand même comparer la Ligue à la première Ligue.
Non.
Après,
il y a eu des fois, sur certains médias, non pas le nôtre, mais on comparait la.
Sur certains médias, justement, tu me donnes l'occasion. Souvent, on allume la télé, cet écran, on le regarde, on fait aussi de la télé, on regarde. Des fois, on voit des gens parler, c'est pas pour leur jeter des. Mais franchement, des fois, il faut aller déjà au stade.
Ouais.
Il faut assister au match, il faut faire le travail de journaliste sur le terrain.
Aller dans les zones mixtes.
Parler, voilà, faire les zones mixtes.
C'est bousculer.
Aller dans le stade, aller voir les championnats. Parce que quand on est dans le stade. On a une vision un peu différente.
C'est vrai.
Et on voit des gens, ils balancent, ils comparent le championnat de France.
Moi, j'ai peur quand je rencontre Yacine dans les zones mixtes.
Je pense.
Yacine, quand vous le rencontrez en zone mixte, c'est du plaisir. C'est du plaisir.
Et Yacine. Je peux parler, je peux dire.
Bien sûr. Et je le sais bien, Yacine.
Je pense qu'il n'a jamais mis les pieds dans un stade. Et il parle de football. Et ça, c'est le drame de, justement, le football en France.
Allez, c'est le coup de blues de Yacine. Non, mais il a raison d'en parler.
C'est la vérité.
Nassim, concernant cette première ligue.
Tottenham fait une bonne saison, comme les précédentes, d'ailleurs, sous Pochettino. Après, comme ça a été dit plus tôt, je pense que Tottenham va plus jouer un rôle de trouble-fête plutôt qu'un rôle réel de potentiel champion en première ligue. Parce que je les sens encore un peu fébriles sur les fins de saison. On le voit d'ailleurs en Ligue des Champions depuis les dernières saisons sous Pochettino. Ils ont du mal dans les phases finales. Ils ont du mal à jouer contre les gros clubs lors des gros matchs. C'est le souci de Pochettino depuis son arrivée à Tottenham. Malgré le fait qu'il a rapporté comme de très bons joueurs dans ce club. Je pense notamment à Dele Alli, Ung-Minson, il y a aussi Christian Eriksen et Kieran Trippier. Ces joueurs-là ont apporté beaucoup. À Tottenham, mais il manque encore quelque chose pour faire de Tottenham un potentiel champion d'Angleterre et pourquoi pas même un champion d'Europe.
On reste en Angleterre.
Time Sport, le mode pressing.
Dernière partie de cette émission qui est Time Sport, du lundi au vendredi 18h-19h, le hashtag Time Sport sur la twittosphère où vous pouvez remporter nombre de livres aux éditions Talent Sport et aussi le 01-53-48-3000 pour réagir justement. Allez, sur... ce jeune d'origine algérienne du sud de la France, natif de Marseille, Samir Nasri, qui a purgé sa suspension pour dopage et s'est engagé en faveur des West Ham et des Hammers. Il déclare « Je ne suis plus le même homme ». Le milieu de terrain français de 31 ans veut désormais prouver qu'il a changé. Pensez-vous qu'il a atteint l'âge de la raison? Yacine Bouali, on l'écoute.
Oui, parce que le talent, il en a. Ça, c'est indéniable. Il fait partie peut-être... des meilleurs de sa génération, mais
génération 87.
Peut-être il a changé en tant qu'homme. Peut-être il a pris beaucoup de maturité. Mais est-ce que le talent, il est toujours là aussi? C'est-à-dire quand on reste sans jouer pendant presque un an, on se poserait des questions sur sa valeur réelle. Mais si un club comme West Ham, quand même, qui est un bon club de
première ligue,
s'ils lui ont fait confiance, c'est que soit ils ont eu toutes les garanties, soit Samir Nasri, un super agent qui a pu lui trouver
un. Il avait un super agent.
Là,
vous savez.
C'est si. Ouais. ça s'est fait. Donc c'est le réseau qui prime sur la valeur intrinsèque d'un
alors,
footballeur. Alors, on écoute. Coach. Ouais. Il rejoint son ancien coach Manuel Pellegrini.
Ouais.
Donc forcément, ça aussi, ça a dû jouer.
Entendez bien.
Peut-être qu'il retourne, il s'entendait bien, ils ont gagné des championnats ensemble.
Il a dit d'ailleurs qu'il.
Ouais, bien sûr, il aimait beaucoup. Beaucoup de respect.
Pellegrini était là.
Donc forcément, ouais.
La question se pose. Maintenant, tous les anciens entraîneurs, à chaque fois qu'ils sont dans un club, ils vont aller chercher leurs anciens joueurs.
Souvent, ils ont un ou deux joueurs repères qu'ils aiment ramener.
Non.
Et ça arrive souvent.
On n'est pas ça. C'est un grand point d'interrogation aujourd'hui.
La signe, c'est de savoir.
Voilà. Le talent, il l'avait. Mais est-ce qu'il l'a aujourd'hui?
À savoir, on verra. Dans les semaines à venir. En tout cas, on l'espère.
Grand point d'interrogation.
Mamadou, sur Samir Nasri.
Tu parles de cette génération 87.
Ouais, Benzema. On oublie un. Yayaoui. Le jeune Yayaoui, Marseille aussi.
Menez,
Abou Diaby. Ben Arfa.
Benzema qui a sorti son épingle du jour, entre guillemets, on va dire, pour avoir une carrière très très régulière. On connaît le talent de Samir Nasri.
Ouais.
Aujourd'hui, Yacine demande effectivement est-ce qu'il a toujours, après un an et demi d'arrêt, est-ce qu'il est toujours. S'il a toujours ça dans les jambes, je pense que c'est un joueur qui a un jeu, il a un jeu en tout cas intelligent, qui ferait que de toute manière, il pourra s'en sortir. Maintenant, il va falloir savoir est-ce qu'il a toujours la même motivation, toujours la même envie. Tout ça, c'est des gros points d'interrogation.
Peut-être que cette période creuse lui a redonné envie de
peut-être,
jouer.
Peut-être. Il a mûri. Il a dit qu'il a lui-même.
Il le dit.
Il dit qu'il
est sur le terrain.
Maintenant, les semaines qui vont arriver vont nous laisser. On va pouvoir voir, effectivement.
Je reste sur ma faim.
On va voir. Ouais. Moi, j'ai un point d'interrogation.
Samir Nasri dit qu'il.
Là, c'est Moras, on t'écoute. Le cas, Samir Nasri.
Samir Nasri dit qu'il n'est plus le même homme, je veux bien le croire. Il a pris de l'âge. C'est ça le problème.
Ouais.
Il a 31 ans. Ah ouais, mais il a 31 ans en sortant
vieux.
Du. Ouais.
31 ans, c'est jeune.
C'est vieux, mais contrairement à Fabregas, lui, il sort d'une saison sans jouer. Parce qu'il était justement disqualifié suite à.
Le talent à l'état pur, on nous dit. Cette génération 87.
Il jouait Antalya Sport, qui, excusez-moi, n'est pas le plus grand club européen à l'heure actuelle.
Ouais,
et
pas faux.
Encore, il sortait d'un prix, il me semble, au FC Séville. Prêté par Manchester City qui n'avait pas été
concluant,
correct. Il sortait comme d'une exclusion un peu stupide en Ligue des Champions. Donc oui, là, à partir de là, Samir Nasri, il ressort à West Ham, qui est un club correct en Angleterre, avec son ancien coach. Je pense que son ancien coach connaît le talent qu'a pu avoir Nasri. Il s'est dit que peut-être qu'il sera capable de rééditer ses performances. Moi, personnellement, j'en suis pas certain. Parce que la Première Ligue reste quand même un championnat extrêmement exigeant.
Ah oui, tu dis non. Ouais.
On parle quand même d'un championnat qui est très exigeant sur le point, sur le point physique. Donc là, vous ramenez un joueur
à haute échelle
qui n'a pas joué pendant un an. Prenez le cas de Lassana Diarra, il a eu à peu près le même parcours. Il ne joue plus avec le PSG.
En partance pour l'Italie, peut-être.
Lassana Diarra, c'est un autre problème.
C'est quasiment le même cas. Il joue quasiment
le même joueur.
Il joue un peu plus haut.
Lassana Diarra aurait joué dans n'importe quel club. Aujourd'hui, il peut jouer dans n'importe quel club.
Ouais, sur le Samir Nasri.
Le choix, moi, j'ai rien compris au PSG. Pourquoi? Je préfère. Franchement, c'est ma propre opinion. Je préfère voir Lassana Diarra que de voir tous les autres milieux du PSG.
Toi,
il est au-dessus de tout le monde.
Toi, t'aimes pas le PSG, donc tu rentres.
C'est comme d'habitude.
Ils sont pas mauvais.
Donc, qu'on me fasse comprendre que Lassana Diarra n'a pas le niveau.
Bien sûr.
On n'a pas. J'ai pas compris.
Il a des bons résultats.
Il rejoint un petit peu le cas de Hatem Ben Arfa quand il était au PSG.
Pas la même chose.
C'est
un autre débat.
C'est
un autre débat.
Si tu veux parler tout seul, ça sert à rien.
Pour moi,
Yacine.
Non, mais attends.
Alors,
et
on repart sur Nasri, messieurs.
Le cas de Lassana Diarra est totalement différent de celui de Ben Arfa. Ben Arfa s'était pris en grippe avec le président du club. Dans ce cas-là, c'était impossible pour lui de jouer. Après, Lassana Diarra a montré de belles choses à l'OM, ce qui n'arrive pas à reproduire au PSG. Tu crois vraiment que si Lassana Diarra
a eu sa chance pour reproduire.
Tu crois vraiment il a eu sa chance.
Il a eu sa chance. Les matchs qu'il a fait, il a fait des matchs très corrects par rapport à tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'on cesse de me dire que Lassana Diarra n'a pas le niveau pour jouer au PSG.
Yacine, tu sembles oublier une chose primordiale, c'est qu'un joueur, il conclut pas sa place de titulaire seulement en match, mais aussi en entraînement. Et si à l'entraînement, il n'a pas montré quelque chose de suffisamment intéressant aux yeux de Thomas Tuchel, c'est voilà,
le football, le réseau joue un grand rôle.
et même dans les places de titulaires.
Merci Yacine. Tu crois vraiment que le réseau de Thomas Tuchel, il se résume à Rabiot et Verratti? Ils ont aucun lien avec Thomas Tuchel.
On laisse le PSG, on est sur Nasri, messieurs.
Messieurs, c'est vrai, t'as raison.
Pour le bien de cette émission, on est sur le Cannes, Samir Nasri chez les Hammers, à West Ham.
Pour revenir sur Samir Nasri, je pense, j'espère pour lui en tout cas, j'espère pour lui qu'il a pris, on va dire, du plomb dans le cerveau, parce que c'est un gamin qui était, un gamin, ça n'est plus, c'est un homme, qui est très talentueux, et pour moi, il a souffert à un moment donné d'une certaine forme d'arrogance, c'est-à-dire qu'il était tellement talentueux, tout le monde lui disait tellement qu'il était talentueux, qu'il s'est permis d'avoir certains comportements qui lui ont porté préjudice. Je ne parle pas de cette affaire pour laquelle il a été écarté et pour laquelle il revient. Si il est revenu avec du plomb dans le cerveau, c'est juste tout, en faisant un peu amende honorable, et qui va rentrer dans le collectif, parce que Samir Nasri n'est pas connu forcément pour être le joueur le plus intégré dans un collectif. Il veut toujours s'en sortir.
Ouais, mais non, ça c'est un discours.
Alors, attends,
ça c'est un discours.
Pas fini.
Alors, on a fini. On attend, Yacine.
Je finis, je te laisse parler.
Lui faire couler,
je finis,
Yacine.
Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après on appelle plus ça des coïncidences. Alors après, soit il a des mecs qui lui en veulent pour toute sa carrière et qui le suivent partout où il va et qui disent à chaque fois qu'il voulait mettre des choses trappes en disant sa mère n'est pas telle, telle, comme ça. Mais quand la chose se reproduit une fois dans un vestiaire, deux fois dans un vestiaire, trois fois ou quatre fois, on n'est plus dans l'ordre de la coïncidence.
On poursuit.
Et d'ailleurs, un fond quand même derrière.
On poursuit
après,
avec.
Je dis ça en étant un peu détaché parce que je ne connais pas Samir Nasri. Mais j'écoute ce qu'on me dit.
Non, ce que dit Mamadou est totalement véridique, dans le sens où quand vous êtes un joueur professionnel qui joue dans des clubs de très haut niveau, à partir de là, il n'y a plus de coïncidence. Quand vous réussissez, prenez le cas d'un Cristiano Ronaldo comparé à Quaresma qui écloue à peu près à la même époque, il y en a un qui a fait les bons choix, qu'ils soient physiques, mentaux, au niveau de l'entraînement, au niveau du choix de carrière. Un footballeur professionnel, c'est pas juste un choix de club et après le talent fait le reste. Non, c'est pas ça. Il y a tout un processus derrière. Il y a tout un nombre de choix derrière qui font que la réussite ou pas arrive derrière. Samir Nasri n'a pas su faire les bons choix, que ce soit au niveau de ses relations, que ce soit au niveau de sa mentalité sportive, que ce soit au niveau de son implication dans l'entraînement, au niveau de son implication dans le groupe. Et derrière, ça donne une carrière gâchée.
Le 01-53-48. 3000 pour réagir avec vos consultants.
Et la manière de communiquer.
Ouais, peut-être.
Bien que tu me dises qu'est-ce que tu reproches à Samir Nasri.
Alors, est-il en mesure justement.
Qu'est-ce que vous reprochez à Samir Nasri?
Alors,
est-il. J'aimerais bien le match. Nassim Bourras, s'il parle, c'est comme. Non, à l'entendre parler, on dirait Samir Nasri est un criminel.
Non.
Samir Nasri, c'est un très très grand joueur. C'est quelqu'un qui n'a jamais, il s'est jamais laissé marcher sur les pieds.
C'est le seul.
Il n'accepte jamais qu'on l'écrase.
Je suis d'accord.
Dans un milieu dans le football, il y a des mecs qui ont de la personnalité, qui ont des principes. Pourquoi on ne prendrait pas le cas de Samir Nasri? C'est un gars qui a des principes.
Ok, là, un gars qui a des principes, selon Yacine, tu vas le répondre.
J'entends cette question.
Allez, vas-y.
Je vais te reposer la même question.
On va voir ta réaction.
Est-ce que Samir Nasri est le seul joueur qui a du caractère?
Lui aussi, il est d'accord.
Est-ce que c'est le seul joueur qui ne se fait pas marcher sur les pieds? Est-ce que c'est le seul joueur qui a du tempérament?
Là, non.
Mais il y en a plein.
Là, oui.
Et pourtant, ces joueurs-là.
Ils ont réussi.
Parce que Samir Nasri a réussi, monsieur. Il a fait des
Je ne dis pas qu'il a réussi.
Samir Nasri a réussi.
Il aurait pu faire encore mieux.
Bien mieux, peut-être.
Il aurait pu faire mieux. Mais le problème.
Dans votre subconscient, il n'a pas réussi, mais c'est qui a fait une super carrière.
T'es en train de parler à ma place.
Yacine.
Je n'ai jamais dit qu'il allait parler.
Yacine, c'est pas un hasard.
Je n'ai jamais dit.
Yacine, je pense moi.
Yacine, je n'ai jamais dit.
C'est bien. Yacine, on termine avec toi. Yacine, c'est pas. Il nous reste 2 minutes.
C'est pas un hasard si on dit que la génération 87, dont fait partie Nasri, est une génération gâchée. Parce qu'ils avaient énormément de talent.
Ça a été gâché, ça c'est sûr.
Ils auraient pu faire bien mieux que juste j'ai joué à Manchester City ou j'ai joué au FC
championne d'Europe championne d'Europe en 2002. Oui, champion de.
Parce que c'est bien beau de dire j'ai réussi ma carrière parce que j'ai joué au Borussia Dortmund, parce que j'ai réussi au Bayern Munich, parce que j'ai joué à Manchester City. C'est pas
non, mais je parle de la génération.
Parce que Faubert, il a réussi sa carrière de très haut niveau parce qu'il a signé au Real Madrid.
Merci.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Désolé.
Mamadou.
Aujourd'hui, je suis du côté. D'habitude, je suis toujours du côté.
Alors, t'es enflanché pour. Avec Nassim.
Ce qu'il dit, c'est vrai. On n'a jamais dit qu'il n'avait pas réussi leur carrière. Ils ont fait des carrières extraordinaires. Mais ils auraient pu faire des carrières bien plus extraordinaires si à un moment donné, dans leur tête, ils avaient pu se fondre et être un peu plus diplomate.
Merci.
Ce jour-là, on le reproche.
Mamadou.
Pas vrai diplomate.
Merci, Mamadou.
Il va faire le petit.
Non. Regarde l'exemple.
Regarde
l'exemple que je vais te donner. Benzema, il a tout compris. Il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Parce que
Benzema, il a toujours été, il a toujours marché droit.
Et ben voilà.
Benzema, il a toujours la preuve. Il est suspendu de l'équipe de France depuis presque 3 ans.
on rentre dans la quatrième année. Mais et l'ont empêché d'être champion du monde.
Non. Merci. Yacine.
Excuse-nous.
On termine.
Pas dans les 15.
Ah, Samir Nasri, ça déchaîne les foules.
Excuse-nous, Yacine.
Qu'est-ce qu'on peut appeler ça?
Excuse-nous, Yacine, parce que Cristiano Ronaldo.
C'est normal.
Excuse-nous de dire que Cristiano Ronaldo est un joueur qui s'est laissé marcher dessus, qui a pas qui a été relégué, qui a été relégué sur le banc en sélection nationale.
Tu penses ce que tu veux. Chacun est libre de penser.
Bon, Yacine, voilà, on ne touche pas à Samir Nasri. Je vous en remercie. Je remercie Yacine Bouali. Je remercie Mamadou Lamine Mané et aussi Nassim Bourra, sans oublier Mehdi Hadjadj, d'avoir été avec moi durant une heure dans Tam Sport. 18h-19h du lundi au vendredi. On se retrouve donc demain, toujours sur l'antenne de Beurre FM. Vous restez à l'écoute. Les podcasts arrivent assez vite sur le site internet beurrefm.net et aussi sur la Twittosphère où on peut vous faire gagner nombre de livres. Chers auditeurs et chers auditeurs, un plaisir. À très vite.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.